Donc, on va commencer par se pencher ce soir sur l'enseignement professionnel. Hein, CAP, BEP, Bac Pro, Bac Technique, BTS, IUT, CET, LEP, CFA, LP, PLP, tout un programme en perspective. Donc, voilà, pas mal de sigles, mais on va essayer avec Erwan et Hakim de clarifier tout ça, de sortir de ces sigles obscurs et de faire la part des choses entre les discours, la réalité, les réformes, leurs effets. Voilà, pour les élèves comme pour les profs. Donc bonsoir Erwan.
Bonsoir. Bonsoir.
Et en deuxième partie d'émission, Julie, qui fait partie du groupe Afrique du secrétariat international de la CNT, va nous parler de la situation au Maroc et entre autres de la situation des étudiants et la situation dans l'éducation au Maroc.
Bonsoir.
Et entre les deux, il y aura la chronique enregistrée de Fabrice, la fameuse maintenant chronique musique et politique qui nous emmènera au pays du jazz avec Charlie Aden. Voilà. Donc on commence par l'enseignement professionnel. Donc c'est sans doute l'un des secteurs de l'éducation nationale qui cristallise le mieux le décalage entre les intentions affichées et la réalité, entre le discours tenu aux élèves et aux parents et aux enseignants et le sentiment de ces élèves d'être relégués dans les poubelles de l'éducation nationale. C'est aussi un secteur qui entretient des liens étroits, souvent assez ambigus avec le monde du travail et donc avec le secteur privé. Donc pour toutes ces raisons, c'est assez emblématique et vraiment intéressant d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'y passe.
Ah, c'est passionnant.
C'est passionnant, merci Erwan. Donc pour commencer, pour situer un petit peu le sujet, je vais commencer par faire un petit historique de l'enseignement professionnel en France, jusqu'à la réforme récente du bac pro. Et ensuite, on parlera de l'orientation, comment se passe l'orientation dans les filières professionnelles, pourquoi ces filières sont souvent vécues comme des voies de garage, malgré ou à cause des réformes successives qui ont pour objectif affiché de valoriser ces filières, de favoriser l'insertion professionnelle, etc. Et on va voir que la réalité est malheureusement assez loin du compte. Et ensuite, on évoquera les difficultés à enseigner, les difficultés à apprendre que rencontrent les enseignants et les élèves dans ces filières. Et on essaiera de comprendre les raisons de tout ça. Voilà.
On peut peut-être dès maintenant, histoire de donner envie aux gens, donner le numéro de téléphone, comme ça, avant la pause musicale, ils auront eu le temps de réfléchir à leur
question. Merci Eddy, tu prends les devants, vu que j'oublie à chaque fois. Donc si vous avez des choses à dire, effectivement, c'est pendant les pauses musicales, en appelant le 01 43 71 89 40. Voilà, donc l'enseignement professionnel, comme tous les secteurs de l'éducation nationale, a une histoire qui est longue et complexe, et faite de multiples réformes, d'ajouts, de retraits. Et bon, bien sûr, je ne vais pas vous infliger le détail de cette histoire, qu'on pourrait commencer au milieu du 19e siècle, mais en gros, à partir des années 20, l'éducation nationale commence à prendre en charge l'enseignement technique qui auparavant dépendait du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc c'est dans les années 20 que c'est rattaché à l'éducation nationale ou à l'instruction publique. Enfin, je ne sais plus comment s'appelait le ministère à cette époque-là. Dans les années 40, sont créés les collèges techniques et les écoles de formation pour les enseignants du technique. Et dans les années qui suivent, les centres d'apprentissage deviennent des établissements d'enseignement technique qui recrutent à partir de 14 ans pour aboutir au passage du diplôme du CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. En 1959, il y a la réforme Berthoin qui fait qu'après le premier degré, donc l'école primaire, il y a un cycle d'observation de 2 ans qui correspond à peu près à la 6e et la 5e, à l'issue duquel les élèves sont orientés en enseignement technique long, donc en lycée technique, qui remplace alors les collèges techniques et qui aboutissent à un brevet de technicien après 4 ou 5 ans d'études, ou à un enseignement technique court qui est dispensé dans un collège d'enseignement technique, CET, qui vont remplacer à ce moment-là les centres d'apprentissage. Et là, c'est des études de 3 ans sanctionnées par un CAP, certificat d'aptitude professionnelle encore. Dans les années 60, il y a une réforme en 1963 qui fixe l'orientation à la fin de la 3e. Et il y a la mise en place des CES, collèges d'enseignement secondaire, qui remplaceront progressivement les petits lycées, qui étaient ce qui préparait les élèves aux études longues dans les lycées classiques. Entre 67 et 69, il y a l'expérimentation puis la mise en place du BEP, le brevet d'orientation professionnelle, qui est un diplôme préparé en 2 ans après la 3e dans les collèges d'enseignement technique. En 71, il y a une loi d'orientation sur l'enseignement technologique. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'on ne parle plus d'enseignement technique, mais d'enseignement technologique pour valoriser la filière. Bon, à part ça, il y a une restauration du CAP en 3 ans. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça n'a pas changé énormément de ce que j'ai lu. En 75, il y a la loi ABI, qui est, c'est assez important, assez connu, puisque c'est à ce moment-là qu'est créé le collège unique. Donc il n'y a plus de filières différenciées au collège. Et les classes, ce qu'on appelait les classes de relégation, par exemple les 4e CPPN, pour ceux qui ont vécu à cette époque, qui étaient des classes qui orientaient dès la 4e à l'enseignement technique ou professionnel, doivent être progressivement supprimées. Ça a pris pas mal de temps, puisqu'elles ont continué à exister jusque dans les années 80. Les collèges d'enseignement technique à ce moment-là, donc en 75, sont transformés en lycées d'enseignement professionnel et préparent au CAP et au BEP. CAP, BEP, tout le monde se rappelle ce que c'est. Donc là, le but affiché est la réduction des inégalités sociales, de montrer que l'enseignement professionnel est intégré à l'enseignement secondaire au même titre que l'enseignement technique et général. Donc il y a une volonté de faire de l'enseignement professionnel une filière parmi les autres qui a la même valeur, qui est juste parallèle à l'enseignement général ou technique. En 85, il y a la loi Caraz. Les LEP, lycées d'enseignement professionnel, deviennent les lycées professionnels. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît ce fameux objectif affiché des 80% de réussite au bac pour une classe d'âge donnée. En 89, il y a la loi Jospin d'orientation sur l'éducation nationale. Et là, le but affiché de la loi est de faire aboutir l'ensemble d'une génération à un diplôme. Pas forcément le bac, mais y compris soit le CAP, soit le BEP. Et cette loi déjà commence à préconiser l'extension des stages en entreprise. Ensuite, Claude Allègre, avec sa charte pour l'enseignement professionnel intégré du 21e siècle, prévoit entre autres encore le renforcement du partenariat entre les entreprises et l'éducation nationale. Jack Lang, en 2000, continue dans le même sens, en présentant des licences professionnelles élaborées en concertation avec les entreprises. En 2001, Jean-Luc Mélenchon, qui était ministre délégué à l'enseignement professionnel, présente les objectifs de ce qu'on a appelé le lycée des métiers, qui lui aussi renforce le partenariat entre la formation professionnelle et le monde de l'entreprise, et qui veut adapter l'offre de formation, c'est-à-dire quelles études techniques ou professionnelles on peut faire, qui adapte cette offre au bassin d'emploi des régions, donc aux besoins des entreprises des régions. Et tout ça pour finir, en 2009, avec la réforme des bacs pro, qui fait passer le bac professionnel, qui avant se préparait en 4 ans, à 3 ans, en prenant le temps, enfin la réduction du temps est prise sur l'enseignement général, c'est-à-dire que le temps de stage en entreprise n'est pas diminué. Donc voilà, j'ai pas parlé de l'apprentissage parce que ça aurait été un peu long. Déjà, je pense que là, c'était un petit peu fastidieux, mais ça viendra peut-être dans le cours de l'émission. Mais je voulais juste dire, pour introduire le sujet, que en préparant cette petite chronologie, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'on assiste dans un premier temps à l'intégration de la formation professionnelle dans le giron de l'éducation nationale, qu'on a tenté de faire des filières professionnelles, des filières, donc comme je disais tout à l'heure, parallèles à celles de l'enseignement général, en laissant de plus en plus de temps aux élèves avant de choisir une orientation professionnelle, avec entre autres le collège unique. Et depuis la fin des années 80, on a vraiment l'impression que c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on redonne de plus en plus de place au monde de l'entreprise dans la formation professionnelle, y compris au sein de l'éducation nationale, et je ne parle même pas du développement de l'apprentissage en alternance. Et donc, autant dans la formation que dans les offres proposées aux élèves, l'entreprise prend une place de plus en plus importante. Donc voilà, ça c'était un petit résumé. Si vous avez sûrement des commentaires à faire.
Juste Erwan. Un commentaire, oui, sur justement les deux dernières réformes, celle du lycée des métiers de Mélenchon, donc le même qui fait le gauchiste aujourd'hui, et sur la réforme du bac pro 3 ans. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle direct avec ce qui s'est passé dans les universités, avec la LRU et la disparition, avec le 358, avec la disparition des DUG et de la première année de maîtrise. Tout simplement parce que la LRU, donc au niveau universitaire, c'est aussi l'intégration des acteurs économiques locaux dans les conseils d'administration, ce qui est le cas dans le cadre des lycées des métiers. C'est on adapte la formation pas aux envies des jeunes, mais en fonction des besoins immédiats des employeurs. Et donc on va multiplier les stages pour que ces jeunes qui sont en formation dans les lycées pro puissent être immédiatement embauchables et rentables pour l'entreprise. Quitte à ce qu'au bout de 2-3 ans, finalement, ils aient besoin de réactualiser leurs compétences professionnelles et soient obligés de repartir en formation. Et on voit vraiment que avant même la LRU, on a déjà le lycée des métiers qui se met en place dans les lycées professionnels et qui intègre exactement la même logique. En ce qui concerne la disparition du BEP, c'était un certain nombre d'élèves qui pouvaient sortir du système scolaire avec au moins un diplôme, alors que là, on en parlera peut-être plus tard, mais on a davantage d'élèves qui sortent sans rien parce qu'il y a un taux d'abandon qui est beaucoup plus fort. Et surtout, ça nous fait un diplôme en moins qui est reconnu dans les conventions collectives. Et là, pareil, on peut faire le lien avec les universités où il y avait des concours qui étaient accessibles, ne serait-ce que si on pense à la fonction publique, des concours qui étaient accessibles avec un DUG. Et là, il y a besoin d'avoir une licence. Donc, on allonge la durée d'études officiellement pour la revaloriser. Dans la réalité, on voit que ça exclut des élèves du système parce que soit ils n'ont plus les moyens de financer leurs études, soit pour X raisons, mais qu'on a vraiment une logique globale au niveau du système éducatif, là, sur les lycées professionnels, mais qui peut se voir avec des conséquences sur l'ensemble du système. Et pourquoi est-ce qu'on commence par les lycées pros? C'est que dans les lycées professionnels, c'est les classes populaires au niveau des élèves, qu'on en parlera certainement tout à l'heure, et au niveau des salariés, au niveau des enseignants, on est à peu près 50 000 enseignants en lycée professionnel, donc ça fait une force de résistance relativement faible, donc c'est beaucoup plus facile de commencer les expérimentations et de commencer cette libéralisation du système par les lycées professionnels. Après, ce qu'il faut être clair, c'est que tout ce qui arrive dans les lycées professionnels va continuer en tache d'huile, va se répandre ailleurs, quoi. Donc, vraiment sur ces deux dernières réformes qui sont vraiment importantes.
Eddy?
Alors, est-ce que, à partir de ce que tu dis là, est-ce qu'on peut dire que finalement, cette espèce de grand invisible de la vie politique française qui s'appelle le monde ouvrier, est-ce qu'on peut dire qu'il est là, en fait? Il est parmi tous ces chômeurs fabriqués par les lycées professionnels, ces jeunes démotivés et aussi des gens qui arrivent à s'épanouir aussi dans une vie professionnelle durable, hein, bien sûr.
Il est totalement là. Il est totalement là, soit par la formation qui est dispensée, qui correspond exactement au schéma qu'on peut avoir du monde ouvrier, que ce soit sur la mécanique, la maintenance industrielle, etc. Mais c'est aussi le cas par rapport à tout le champ des employés qui sont plus des cols blancs, mais qui sont des exploités dans les bureaux, qui font de la saisie informatique, de factures, etc., et qui passent par les lycées professionnels. Et donc c'est vraiment le prolétariat qui est en formation, souvent par rapport au métier qu'ils auront plus tard, quand ils en ont un plus tard, et on verra que c'est loin d'être le cas pour tous, et aussi par leurs origines sociales, où l'extrême majorité des élèves sont des classes populaires, quoi.
Et en parlant d'élèves, Erwan parlait de 50 000 enseignants, mais lycée professionnel, c'est 700 000 élèves. C'est-à-dire c'est un petit tiers de la masse globale d'élèves scolarisés en France aujourd'hui. C'est une précision qu'il fallait...
Alors, je pense que ça n'a pas forcément été très clair dans le petit parcours chronologique que j'ai fait tout à l'heure et que c'est sûrement pas très clair dans l'esprit de la plupart des gens. Concrètement, après la troisième... qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enseignement professionnel? Quelles sont les différentes filières et les différentes passerelles qu'on voit un petit peu de quoi on parle et...
Il y a déjà des troisièmes découvertes professionnelles, c'est-à-dire on a déjà une orientation qui se fait dès la fin de la quatrième, c'est-à-dire on a un certain nombre d'établissements, pas tous, où les lycées professionnels accueillent des élèves de troisième, encore des collégiens, dans des classes dites troisième découverte professionnelle. Mais c'est vrai que pour la plupart, l'orientation se fait en fin de troisième, et pas forcément sur des critères...
Sans que ce soit la volonté des élèves.
C'est rarement la volonté des élèves.
Ça, on en reparlera.
C'est oui. Très rare de voir dans un lycée professionnel des élèves qui sont là parce qu'ils l'ont voulu. C'est souvent, au mieux, le deuxième, le troisième, malheureusement, c'est souvent le quatrième, cinquième ou sixième choix dans lequel ils atterrissent. Ouais.
Et alors, donc, une fois qu'ils passent en seconde, ils sont en lycée professionnel, qu'est-ce
alors,
qu'ils préparent?
Oula, avant. Non. Avant, c'est-à-dire qu'ils vont, les collègues en troisième, Arrivés autour du second trimestre, ils vont considérer que le niveau scolaire d'un élève n'est pas suffisant pour aller en lycée général, donc ça va se baser sur les notes de français, de maths, avec toutes les critiques qu'on peut avoir déjà sur le système de notation et d'exclusion en collège. Et à partir de là, on va demander à ces élèves-là de faire des choix pour leur avenir professionnel. Donc du coup, à part pour les quelques-uns qui avaient déjà une vision très claire sur un métier à apprendre, mais ça c'est vraiment une grande minorité, pour la majorité, ça va être arrivé au courant février-mars. On va leur dire, bon bah là maintenant, mon bonhomme, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux faire l'année prochaine. Et là, ils sont face à une masse de choix énormes, parce qu'on a énormément de formations qui sont proposées, que ce soit en CAP, avant il y avait les BEP, mais y compris maintenant quand même avec les bacs pro. Et le gros souci, c'est que ces formations sont pas également réparties sur le territoire. Donc les élèves vont se retrouver à réfléchir déjà à ce qu'ils veulent faire, si on pense à la région parisienne, 1h30 de transport le matin et le soir. Donc s'ils ont pas envie, ils vont déjà peut-être commencer à regarder des lycées professionnels qui sont autour de chez eux. Ils vont voir les formations qui peuvent être dispensées, peut-être dans le meilleur des cas, en trouver qui leur conviennent. Donc là, on voit déjà que toutes les démarches qui sont à faire sont quand même déjà pas évidentes pour un élève qui est en troisième et qui peut être un petit peu perdu face à tout ça. Surtout que les conseillers d'orientation ayant disparu quasiment à 100%, ils sont un peu laissés seuls, même si les collègues de collège les accompagnent, mais ça reste compliqué. Et donc, ils font leur choix, et leur choix vont passer dans une machine, qui est un système informatique, et qui va coefficienter leurs notes, leurs moyennes. Donc s'ils veulent faire une formation en mécanique, il faut qu'il y ait des bonnes notes en maths et en techno. Si c'est plutôt carrière sociale et sanitaire, va falloir qu'il y ait des notes correctes en SVT. Ça, par contre, les élèves sont pas forcément au courant. Et que, évidemment, c'est pas arrivé au mois de mars qu'on va se dire, oula, j'ai envie de faire ça, il faut que je fasse un effort.
Il est temps d'être bon en biologie.
C'est ça. Et donc, on se retrouve face à des gamins qui se retrouvent complètement broyés par un système qui est peu compréhensible, déjà pour nous, professionnels qui sommes dedans, mais alors pour eux, ça devient complètement obscur. Et ils finissent par avoir, dans le meilleur des cas, au mois de juillet, fin juin, début juillet, une affectation. Et où on leur dit, vous êtes affecté dans le CAP, agent polyvalent de restauration, ou dans le bac pro comptabilité, pour la rentrée prochaine dans tel établissement.
Et le fait d'être en CAP ou en bac pro, ça se décide dès l'entrée en seconde, ou c'est en fonction des résultats en seconde qu'on va avoir un BEP ou un bac pro? C'est ça pour moi qui est un peu obscur.
Dès l'entrée en seconde, même si le ministère souhaite mettre en place des passerelles pour, et là certains collègues, pour être honnête, ils seraient pas opposés, pour dégager les élèves en plus grande difficulté qui sont en seconde bac, pour les envoyer vers le CAP. Dans la réalité, un élève, quand il est affecté en CAP, il va faire son cursus en CAP jusqu'au bout.
Donc c'est en 2 ans ?
En 2 ans. Et un élève qui est en bac pro va faire son cursus, va être inscrit pour les 3 ans à son bac pro.
Et un élève qui est en CAP peut rejoindre le bac pro ?
Pour les 1%.
D'accord.
Voilà.
Bien, je pense qu'on a un petit peu posé la situation. On va faire une petite pause musicale, si la technique nous y autorise. Pascal, Émilie, c'est possible ?
Non, Pascal, c'est pas possible. Chemise ouverte, tel le baroudeur qui affronte la machine. C'est magnifique.
Pas de pause musicale.
Le technicien le plus sexe de la bande FM.
Mais vraiment, sur ces questions d'affectation et d'orientation, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on le voit. Moi, je suis donc enseignant en lycée pro. On va avoir des classes en seconde, certaines qui vont être dès le début à 24, et puis d'autres où on va avoir 15, 16 inscrits. Et puis, fin septembre, on va avoir 2 nouveaux élèves qui vont arriver. Et puis fin novembre aussi. Et en fait, il y a comme ça,
même
3, 4,
avril,
et voire plus, voilà,
ça arrive.
Ça peut arriver encore bien après, mais il y a 3, 4 tours d'affectation en lycée professionnel pour les élèves qui sont sans solution. C'est-à-dire pour qui les vœux qu'ils avaient faits, aucun n'a pu être satisfait, et donc il faut qu'ils soient vus à l'inspection académique, etc. Et donc on est vraiment face à un système qui est compliqué en termes de gestion administrative pour les élèves. Hein. Et dont la lourdeur est plus lourde, en particulier en région parisienne, parce qu'on n'a pas d'internat, Et que, parce que ça, c'est une réalité sur l'ensemble du territoire, hein, le fait qu'il n'y ait pas un lycée des métiers du bâtiment dans tous les départements, dans chaque sous-préfecture, voilà, pour des contraintes qui peuvent aussi apparaître entendables sur la question du budget que ça représente de mettre un atelier avec toutes les machines-outils. On peut peut-être pas en mettre partout. Ça aurait peut-être pas de sens non plus. Par contre, en province,
il y a
un internat. Là, moi, si je prends le cas de certains de mes élèves, ils mettent 1h30 le matin pour venir, 1h30 pour revenir chez eux le soir. Donc, ils ont 3 heures de transport par jour à 16 ans, et on a à peine 16 ans, sur des journées très longues, très chargées. Bon, forcément, c'est compliqué, quoi.
Tu veux bien juste préciser le type d'enseignement que tu...
Alors moi j'enseigne en CAP, donc des CAP agents polyvalents de restauration pour des élèves qui sont issus plutôt de SECPA ou en situation de handicap.
Donc voilà, les SECPA c'est...
Des filières d'élèves en grand retard scolaire au collège. Et sinon j'enseigne aussi à des bac pro. Donc là, bac pro, tertiaire, compta,
vente. Donc toi tu enseignes le français...
Et l'histoire géo. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que les CAP, enfin intéressant, je suis pas sûr que le terme soit bien choisi, mais les CAP en général, ça va être davantage des filières dites industrielles, donc avec des ateliers de production, ce qui fait qu'il y en a moins. Ce qui veut dire que mes élèves que j'ai en CAP, qui sont des élèves plus jeunes, qui sont en plus grande difficulté scolaire, qui, à côté, peuvent être aussi en difficulté dans les transports, c'est ces élèves-là qui vont devoir faire 1h30 pour venir jusqu'au lycée. Donc on cumule les difficultés pour leur arrivée au lycée. Ça veut dire que pour un jeune qui arrive en lycée professionnel, c'est une période quand même particulièrement stressante parce qu'il est plus du tout avec ses copains et ses copines, parce que forcément tout le monde là s'est explosé. Il n'y a pas de secteur comme pour un lycée général. Tous ceux qui vont au lycée général vont à peu près dans le même lycée général. Là, c'est loin d'être le cas. Donc, c'est des élèves qui se retrouvent relativement isolés quand ils arrivent au lycée, avec des nouvelles matières, avec un nouveau relationnel, avec une nouvelle structure, etc. Donc,
secteurs qu'ils ont souvent pas du tout choisi. En plus.
Et dans des filières d'apprentissage qu'ils ont, enfin de professionnels, oui, qu'ils ont souvent pas choisi. Donc, ça crée forcément des difficultés.
Bien, bah je crois qu'on est prêt pour la pause musicale. Donc je rappelle, merci Eddy, que si vous souhaitez appeler, poser des questions ou faire des commentaires, vous pouvez appeler le studio au 01 43 71 89 40. Voilà, donc on continue sur les lycées professionnels avec Hakim et Erwan. Et j'aimerais bien maintenant qu'on revienne un petit peu, même si on l'a déjà évoqué à demi-mot, sur l'orientation, sur l'avant et l'après, c'est-à-dire qui... Et comment on se retrouve orienté en lycée professionnel, CAP ou bac pro? Et puis, comment ça se passe après? Qu'en est-il de l'insertion professionnelle ou éventuellement du raccrochage à des études supérieures? Hakim?
Il y avait plusieurs questions.
Alors, la première, c'est déjà par rapport à l'orientation avant, en troisième. Qui sociologiquement qui se retrouve en lycée professionnel et comment ça se passe? Est-ce que on a vu que c'était pas forcément choisi? Ça, Erwan en a déjà un petit peu parlé au niveau sociologique et même
sociologiquement écologique. C'est très simple, c'est les classes populaires qui se retrouvent en masse dans les lycées professionnels.
Alors là, est-ce que on peut dire que d'une certaine façon, à résultat égal, il y a la confiance en eux, ou je ne sais pas comment dire, des parents d'élèves qui se sentent habilités à refuser une décision du système?
Ça joue
qui
beaucoup.
Compte beaucoup.
Ça joue beaucoup. C'est aussi des enfants qui ont des parents qui sont très peu informés du fonctionnement du système éducatif.
Oui, parce qu'il y a une domination très intégrée. Quand tu as eu des parents qui eux-mêmes ont vécu de mauvais élèves, entre guillemets, ils se sentent coupables d'avoir donné enfants.
C'est quelque chose qui a pas mal évolué par rapport à moi, des souvenirs que j'avais là pour le coup en tant qu'étudiant. En sociologie, sur justement le profil des élèves en LP et la poursuite d'études. Et à l'époque, donc ça c'était, je crois, années 90, un truc comme ça, l'idée que des parents ouvriers vont plutôt conseiller à leur enfant d'aller vers l'enseignement professionnel parce que ça permet d'avoir des étapes et au bout de 2 ans d'avoir un diplôme, quitte à continuer ensuite. Ça, honnêtement, moi je l'ai rencontré une fois, un élève qui était accepté pour aller en lycée général et c'est les parents qui ont refusé. En lui disant, non, on préfère que t'ailles en lycée pro, tu vas passer un diplôme et t'en passeras un deuxième. Voilà. Ça, honnêtement, c'est en 7 ans, c'est le seul cas que j'ai rencontré Mes autres élèves ont été sélectionnés par les résultats, donc socialement, tout simplement parce que leurs parents n'avaient pas les codes de l'école pour leur permettre de réussir suffisamment. Et donc, et après, il y a le refus. Il y a le refus quand on oblige à aller en lycée professionnel. Là, évidemment, les parents de classe populaire vont pas refuser, alors que, par exemple, des parents enseignants vont peut-être plus facilement refuser.
D'autant qu'il y a une politique actuellement générale à l'ensemble de l'éducation nationale qui est de limiter au maximum les redoublements. Un petit peu pour des arguments d'efficacité, beaucoup pour des arguments financiers, puisque un
enfant essentiellement pour des arguments financiers. Oui.
Voilà, et donc ça, il faut tout simplement le savoir. C'est-à-dire que quand une équipe, un conseil de classe, un collège dit aux parents « Non, non, on ne peut pas faire redoubler votre fils », un enfant qui, même s'il n'a jamais redoublé, se voit proposer une orientation en lycée professionnel, bah, il faut effectivement que les parents soient un petit peu informés sur le système scolaire pour dire « Bah non, je préfère qu'il redouble pour avoir le niveau pour passer en lycée général. »
D'ailleurs, ça donne des catastrophes, parce qu'on voit de plus en plus ces dernières années arriver en lycée professionnel des élèves qui ont l'âge d'être en seconde, donc... Mais qu'il n'y avait pas, quand on tombe par hasard sur leur dossier, on se rend compte que c'était pas bien catastrophique au collège, que ça ne nécessitait peut-être pas ce déclassement, parce qu'aller en lycée pro, c'est un déclassement, c'est le trou du cul de l'éducation nationale. Il n'y a pas de passerelle possible vers le reste. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'élèves qui, ils auraient gagné à redoubler une année au collège. Moi, j'ai plein d'élèves qui n'ont rien à faire là, qui devraient être en général.
Est-ce que tu penses, et est-ce que tu dirais aujourd'hui aux parents qui nous écoutent, coûte que coûte, on essaye d'aller au bac ?
C'est plus compliqué que ça, coûte que coûte. En plus, même dans le cadre
durer dans la balance, tu vois.
Même dans le cadre des lycées pro, les CAP sont en train de disparaître. Corrige-moi si je me trompe, Erwan. Il y a de moins en moins de diplômes intermédiaires. Le bac pro, on l'a dit, est passé de 4 à 3 ans. Donc, ça complique singulièrement la chose.
Après, coûte que coûte, je sais pas. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément envie, qui ne sont pas à l'aise dans l'enseignement général et qui seraient assez contents d'avoir assez rapidement une formation. Mais pour ça, il faudrait qu'elle permette d'avoir un métier. Or, toutes les statistiques, et c'était la deuxième partie de ma question, montrent que plus on a un niveau d'études élevé et plus on trouve du travail. Oui,
ouais,
Erwan.
Je voulais, pas moduler, mais moi je suis enseignant en lycée pro et j'aime bien le lycée pro. Je pense que c'est ça peut être une bonne structure qui peut être épanouissante pour des élèves. Le problème, c'est que la façon dont on oriente les élèves vers le lycée pro, on les oriente pour des mauvaises raisons. On les oriente vers le lycée professionnel parce que ils sont en échec scolaire, ce qui peut être en partie une raison entendable, mais que pour un certain nombre d'élèves, ils vont être orientés là parce qu'ils sont passés à côté du collège. C'est-à-dire que nous, on les voit arriver, jusqu'en CM2, visiblement, ça a dû à peu près rouler, puis il y a eu un truc qui s'est passé pendant 4 ans, ou qui s'est pas passé. Et donc, c'est des élèves qui sont orientés en lycée pro parce qu'on va les juger turbulents, parce qu'on va les juger chiants, parce qu'ils auront eu beaucoup d'heures de colle, parce qu'on les trouve pas assez scolaires et qu'ils font pas leur travail à la maison. Mais ça, s'ils le font pas, c'est une responsabilité de l'école pédagogique antérieure, et que le problème, c'est qu'on les oriente souvent pour des mauvaises raisons. Parce que par contre, une fois qu'ils sont au LP, c'est pas forcément un drame. Et ça empêche pas de réussite, en particulier de réussir sa vie, encore si ça veut dire quelque chose, dans le sens au moins s'épanouir. Et que par contre, ça questionne énormément la chose, ce que l'éducation nationale a rarement l'habitude, c'est qu'on peut très bien être heureux dans sa vie sans forcément avoir un parcours scolaire qui nous emmène dans de hautes études. Et ça, le lycée professionnel le défend aussi et essaye de le permettre. Après.
Et après, il y a quelques lycées professionnels qui offrent des formations en particulier dans les domaines de, par exemple, de l'artisanat d'art. Qui offre des formations où il y a carrément une sélection à l'entrée, où il faut déjà avoir un certain savoir-faire, une très grande motivation, un dossier scolaire pas trop mauvais pour y entrer, et qui là sont pour le coup des filières professionnelles complètement épanouissantes, très qualifiantes, et qui, j'espère pour ceux qui y sont, permettent de trouver un travail correct à la fin, quoi.
Oui, totalement.
Oui, on a cette impression de l'extérieur. Moi, je vois par rapport, déjà dans mon parcours scolaire, hein, en fin de cinquième, on m'a proposé d'aller en hôtellerie. C'était clairement pour se débarrasser d'un élève turbulent. Hein, ça avait rien à voir. Et c'est ma prof de français. Il se trouve qu'elle était la femme du principal. Tu vois, donc comme elle trouvait qu'il fallait que je reste, finalement je suis resté. Quand les profs ont dit ça à ma mère, elle a trouvé ça normal, quoi. Bon, ok, mon fils, c'est un galérien, il va aller en hôtellerie et c'est bien, quoi. Au moins, en plus, il va pas se couper les doigts avec des scies. Et en contrepartie, on a l'impression que dans la culture française, en tout cas dans le rapport à l'enseignement, dès qu'on touche un peu à l'apprentissage, à l'artisanat, etc., on revient à quelque chose qui appartient plus au cœur de la société et quelque chose de tout de suite plus respectable et que du coup, de ces métiers-là découle quelque chose d'automatiquement plus valorisant, même à compétence égale. Parce que là où je voudrais aussi que tu nous parles du degré de compétence, parce que je me souviens quand je travaillais dans un lycée d'un prof de MPSI, enfin de prépa d'ingénieur, qui m'avait parlé d'une étude en fait où à un test de travail à faire pour usiner un tube, finalement c'était les élèves de lycée professionnel qui s'en étaient mieux sortis que ceux d'école d'ingénieur. Et donc voilà, ce décalage en fait symbolique entre la façon dont on arrive dans tel ou tel intitulé d'enseignement et les compétences réelles.
Les compétences dans le champ professionnel souvent sont très bonnes à la sortie du bac pro. Je mettrais un bémol, qui est le bémol des filières tertiaires, comptabilité, secrétariat, commerce. Autant en commerce, il peut y avoir des compétences d'un bon niveau. Je serais un petit peu plus, même si je sais que ça peut choquer certaines personnes qui pourraient m'entendre, mais je dirais qu'en secrétariat, c'est plus compliqué, tout simplement parce que les compétences qui sont aujourd'hui demandées à des secrétaires de direction, par exemple, sont des compétences particulièrement complexes en termes de communication organisationnelle, d'anticipation, donc d'avoir une gestion globale des tâches, et que, pour l'instant, l'enseignement est encore resté un peu en décalage par rapport à ça. Moins, pas assez ambitieux pour permettre vraiment un bon niveau de compétence. Après, c'est de façon générale et c'est un avis personnel. Hein, c'est pas...
Et alors donc, par rapport à ce problème de la manière dont se fait l'orientation et du fait que les formations ne soient pas toujours adaptées et en tout cas ne permettent pas toujours d'avoir une insertion professionnelle satisfaisante pour les élèves, qu'est-ce que vous avez constaté, toi, Kim, qui est surveillant en lycée professionnel, et toi, Erwan, qui est enseignant, des difficultés que ça peut créer au niveau de l'apprentissage des élèves et au niveau de l'enseignement et du rapport des adultes à ces élèves. En gros, comment ça se passe concrètement à l'intérieur des lycées professionnels ?
Ça se passe plutôt bien, pour commencer. Faut le rappeler. Mais on est confronté à des élèves qui pour un certain nombre n'ont pas envie d'être là, qui font de longs trajets, qui ont un absentéisme parfois très lourd, qui ont des difficultés dans pas mal de matières. Y a d'inévitables tensions au jour le jour, mais qui sont pas différentes d'autres établissements. Bon, c'est pas la mer calme comme dans les grands lycées prestigieux, mais c'est tout à fait... Non, ça se passe bien, mais après, on est confronté à un public qui est confronté à d'énormes difficultés en dehors même du lycée. C'est ça qui est essentiel. Donc,
oui. Erwan, oui.
Peut-être justement aussi rappeler ça, parce que c'est peut-être pas bien compris ou connu par tout le monde. Mais nos élèves en LP habitent à quasiment, pas 100%, mais à 90% dans les appartements les plus pourris, dans lesquels, au 10e étage, dans lesquels l'ascenseur est en panne 2 semaines sur 2. Des problèmes financiers très lourds, ne serait-ce que par exemple pour pouvoir manger à la cantine. C'est évidemment les mêmes élèves qui sont contrôlés le matin et le soir par le même flic, sans raison. C'est les mêmes élèves qui, le week-end, si jamais ils ont envie de sortir, se font exclure, voire embarqués par les keufs. C'est les mêmes élèves qui, quand ils vont au centre commercial avec leurs copains et leurs copines, faire les boutiques comme ça arrive à beaucoup de jeunes, c'est les mêmes qui vont se faire suivre par les vigiles et se faire foutre dehors. Voilà, c'est une réalité qui est dure, et ça c'est le tableau global. Le tableau plus exceptionnel, c'est les élèves qui sont sans domicile fixe. Moi, pour la première fois, là, en 2 ans, on en a quand même. Sur 400 élèves, pas la majorité, heureusement, mais quand même. Des élèves qui vivent en foyer avec leur mère et arrivés à l'âge de 18 ans, on leur dit, mon grand, t'as 18 ans, ta mère elle reste dans ce foyer-là, mais toi, t'es majeur, donc tu te casses, tu vas dans un autre foyer. Il est dans un autre département, c'est pas grave, écoute.
On a même des élèves en foyer de jeunes travailleurs.
Les élèves en foyer de jeunes travailleurs, le nombre d'élèves qui sont en situation sans papier, donc avec toutes les problématiques derrière de stress, d'aide sociale, de non-accès aux bourses. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre d'élèves qui, par leur situation administrative de sans-papiers, ne peuvent pas accéder aux bourses ou aux aides pour la restauration scolaire. Donc, tous ces élèves-là, quand ils arrivent au lycée, arriver à 8 heures et se poser les fesses sur dans une salle pas toujours très accueillante pour étudier un texte qui, a priori, n'est pas censé les passionner de prime abord...
Avec un prof comme Erwan, qui
avec
est
un prof comme moi,
toujours passionnant.
Okay, donc forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pas, ou ils viennent en retard, ou ils viennent sans leurs affaires, ou voilà. Et que on est confronté. Alors là, après, c'est aussi spécifique au lycée professionnel. Je pense aussi de la région parisienne, pour avoir été surveillant en lycée pro en Bretagne. Si le profil sociologique était le même. La réalité sociale était quand même pas aussi aussi lourde, quoi.
Ouais. Donc. Eddy, tu voulais poser une question?
Oui, justement, je voudrais savoir. Je me dis, j'arrive au lycée professionnel et je tombe sur un prof habillé en rouge et noir avec un t-shirt des Black Panthers. Est-ce que ça va pas faciliter un peu quelque part un intérêt? Et puis, d'un autre côté, t'es un militant très investi du syndicat. Est-ce que t'as l'impression d'être sur un terrain où quelque part tu peux apporter un certain recul, déconstruire un peu la situation des élèves et les armer un peu plus?
Alors sur la première partie, bon déjà j'ai pas toujours ce t-shirt là quand je vais bosser. des fois je suis même en chemise et tout, hein, donc pour mes élèves, non mais pour mes élèves, je suis un prof comme les autres, c'est-à-dire que même si la majorité de mes élèves savent que je suis à la CNT, que je fais toutes les grèves. Ils le savent, ils le voient très bien, ils voient très bien que je m'en cache pas d'ailleurs par souci de transparence et d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis d'eux, qu'ils soient capables de se positionner vis-à-vis de moi. Après, pour mes élèves, je suis un prof de classe moyenne, mais pour eux, je suis un prof riche. J'ai une voiture, je suis blanc, je viens de Bretagne. Mon histoire familiale, comme pour tous les Français sous chien, a profité de la colonisation et n'a pas voilà. Donc du coup,
tu n'as pas remboursé.
Donc je suis de l'autre côté.
Tu as une dette envers l'Afrique.
Je suis pas de leur côté. Il y a pas de. Moi, j'ai rarement eu de sentiment d'animosité des élèves vis-à-vis de moi. Peut-être parce que oui, je peut-être un peu peut-être un petit peu originaux, mais. Honnêtement, je crois pas que ça c'est une autre réalité de l'enseignement professionnel, hein, c'est que les profs titulaires, pour faire très très rapide, ont donc fait des études plus ou moins longues, donc majoritairement sont issus soit de classe moyenne, soit un peu plus, majoritairement sont blancs, mes collègues contractuels sont arabes ou noirs, les personnels d'entretien sont antillais, voilà, et mes élèves sont noirs et arabes,
à part
quelques blancs qui majoritairement vont être portugais, ça... Voilà, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Par contre, du coup, face à cette réalité, c'est évident que c'est aussi un choix d'intérêt militant, on va dire, de bosser en LP, parce que, ouais, on peut leur apporter énormément de choses, mais on s'apporte mutuellement. C'est-à-dire que moi, mes élèves m'apprennent énormément de choses. On s'apprend, je crois, réellement mutuellement, et c'est pas juste une expression. Et après, oui, l'idée, c'est de leur apporter des choses sur l'histoire sociale, sur les textes, sur des réflexions sur justement les relations entre les personnes, entre les garçons et les filles, la relation de genre, il y a vraiment des choses à apporter et pas toujours non plus un refus de la part de ces élèves-là Souvent, on a l'image qu'un enseignant en lycée pro, c'est plus difficile qu'en collège. Ça, moi, je pense pas. Ça, je pense vraiment pas. Plus difficile qu'en lycée général, je pense que c'est juste différent.
Ça dépend des lycées généraux.
Voilà.
Quand dans certains lycées généraux, on peut faire des cours magistraux.
Ouais.
C'est effectivement pas la même chose, mais là, on parle d'une minorité d'établissements.
C'est ça. Mais du coup, oui, c'est des gamins. Ouais, il y a plein de choses à faire, quoi.
Donc, on va revenir un petit peu là pour enchaîner sur le devenir des élèves après le lycée professionnel, que ce soit après le CAP ou après le bac pro. Donc, si tu veux commencer, Hakim, vu qu'Arwan n'a pas fini sa cigarette.
Le devenir naturel après le bac pro, le CAP, c'est le monde du travail. On parle souvent du lycée professionnel comme l'antichambre. Bon, à l'époque, des LEP, on parlait, ils en parlaient, les élèves en parlaient même comme de l'antichambre de l'usine.
Aujourd'hui, c'est l'antichambre du chômage.
Aujourd'hui, c'est l'antichambre de l'entreprise. Pas souvent pour le meilleur, souvent pour le pire. Après, il y a ceux qui poursuivent des études, des études supérieures. Ça, j'ai pu m'en rendre compte pour nombre d'entre eux, parce qu'on évidemment on vit dans une société où le bac suffit de moins en moins. Et c'est même un discours qui est répété. Mais le devenir dans l'enseignement supérieur des lycéens en bac pro, alors c'est un sujet qui est à la mode, parce qu'on en a reparlé très récemment de places réservées en BTS et en IUT, donc le débouché
naturel,
on serait tenté de dire pour les lycéens techniques et professionnels, sauf qu'on s'est rendu compte que sur les 15-20 dernières années, à propos de ce que certains hommes et femmes politiques appellent le grand gâchis de l'échec en premier cycle, on s'est rendu compte que les places en BTS et en IUT sont allègrement squattées par une grande majorité de bacheliers généraux. Ce qui laisse très peu de place à des bacheliers professionnels et techniques pour pouvoir s'inscrire dans ces filières qui leur seraient naturellement dédiées. Oui. Voilà. Donc voilà, les lycéens professionnels refusés en BTS et en IUT, il y en a énormément, et chaque année il y en a énormément. Pour ceux qui veulent poursuivre des études supérieures, ils vont à l'université, comme beaucoup de monde,
et là, on
en sciences sociales, en sciences humaines ou ailleurs, et ça donne un beau carnage en première année. C'est assez impressionnant. Et c'est même, quand on voit les chiffres des bacs pro qui passent leur licence en 3 ans, c'était les chiffres les plus récents alignés pour l'année 2012, ils sont seulement 18%.
D'accord. Erwan, tu voulais...
Complètement. Enfin, ne serait-ce que par la pédagogie ou le format d'études en lycée pro, les études à la fac, à part pour les cas d'exception, et on peut toujours en trouver, mais pour 99% des élèves ayant un bac professionnel, c'est la plantade presque assurée. Ne serait-ce que pour un élément tout bête, la question de la prise de notes. En lycée professionnel, on ne forme pas, ou très 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 peu, à la prise de notes. Donc une fois arrivé en cours magistral à la fac, c'est plus possible.
D'autant que avec cette réforme du bac pro, donc je l'ai dit en début d'émission, mais je le rappelle, on est passé de 4 ans à 3 ans en gardant le même temps de stage, donc en réduisant les temps d'enseignement général. Donc forcément, le niveau scolaire, la méthodologie, etc. sont beaucoup moins travaillés.
Et ça, c'est important. Alors, c'est à la fois la réforme du bac pro 3 ans, elle a un intérêt, a priori, qui est de permettre à tous les élèves qui arrivent en seconde d'aller jusqu'au bac. Alors qu'avant, il y en avait quand même beaucoup qui arrêtaient en BEP. Donc il y avait un écrémage, un tri social qui se faisait à l'issue du BEP. Donc ça faisait des classes de bac pro plus confortables pour les enseignants. Sauf que dans la réalité, nos élèves qui arrivent en seconde à 24 sur une classe, on va en garder, s'il y en a 15 qui présentent le bac à arriver en terminale, ce sera pas si mal. Donc on a de fait ce tri social qui continue à s'opérer pour X raisons, parce que les élèves décrochent pour plein de difficultés.
Toutes les raisons dont on a déjà parlé.
Mais du coup, ça permet pas de... ça leur volent une année de formation, une année de maturation aussi, de pouvoir reprendre confiance en eux.
C'est-à-dire qu'en BEP, c'est important.
En BEP, ouais. C'était super important. La première année de BEP nous servait énormément à leur redonner confiance en eux, y compris dans l'enseignement général. Enfin, surtout, je dirais, dans l'enseignement général. Et donc, et ça, c'est aujourd'hui plus possible. Et on a cette particularité du lycée professionnel dont on n'a pas encore parlé, c'est la question des stages qui est quand même essentielle en lycée professionnel. Si voilà, c'est quand même l'élément central et c'est aussi ce qui intéresse un certain nombre d'élèves qui vont venir en lycée professionnel, c'est l'idée d'aller en stage, donc de pas être à l'école, etc. Sauf que on est aujourd'hui quasiment sur un rythme d'alternance avec une période de cours jusqu'aux vacances d'automne, stage. On les revoit une semaine, 15 jours avant les vacances de fin d'année. On les revoit un petit peu au mois de janvier, de nouveaux stages. Et puis voilà, l'année, elle se rythme comme ça. Et donc, il n'y a pas de rythme scolaire régulier pour les élèves, y compris pour nous, d'ailleurs. Et ça ne facilite pas ce suivi scolaire qui pourrait permettre plus facilement d'avoir une poursuite d'études après.
Et alors, par rapport justement à cette... T'as commencé un petit peu à toucher la question du doigt. Est-ce que il y a une pédagogie justement qui serait propre à l'enseignement en lycée pro? Comment ça se passe justement pour des élèves qui arrivent? Donc on a parlé de qui arrivait là. Comment ça se passe concrètement pour eux, souvent socialement? Pour les adultes qui travaillent avec ces adolescents, est-ce que c'est le même métier? Est-ce que ça se passe différemment? Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes, peut-être, différentes à expérimenter?
L'idée globale, on va dire, c'est davantage de partir sur des cas concrets d'études. Partir sur des cas concrets d'études pour arriver, après, à les généraliser, ce qui se fait pas automatiquement. Pour faciliter, minimiser la difficulté de l'abstraction. Voilà. Ça, on va dire que ça peut être le critère global de pédagogique en lycée professionnel.
Et il y a suffisamment de liberté dans les programmes pour permettre ça, ou bien c'est une liberté que vous prenez comment ça se passe concrètement?
Alors, justement, les choses ont changé quand même. Avant, c'était pas difficile de prendre cette liberté-là, parce qu'on avait des programmes rigides, mais on avait le temps de les travailler. Là, aujourd'hui, avec les Bac Pro 3 ans, on a des programmes qui sont très très lourds, et donc qui, par exemple, nécessitent en bac pro de traiter en 4 ou 5 heures les États-Unis du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc la guerre froide, les guerres mondiales, hop, tout ça, en 4 heures, hop, c'est bouclé. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Les gamins se retrouvent à être obligés davantage de travailler chez eux. Donc on crée de l'échec. Enfin, donc aujourd'hui, on a un format pédagogique qui nous permet moins de souplesse. Après, je pense qu'il faut être aussi honnête sur une chose, c'est que on est encore, en tout cas en lycée professionnel, certainement plus libre qu'en école primaire ou en collège, et certainement aussi qu'au lycée général. On peut quand même faire les choix de nos textes, nos choix d'activités, donc on a cette liberté-là que l'on peut prendre. Après, toutes les libertés, on les prend, enfin, on ne les donne pas, hein, on les prend. Et donc si on décide de pas les prendre parce qu'on a envie d'être un petit peu feignant intellectuellement vis-à-vis des cours qu'on peut construire pour nos élèves, bon, voilà. Mais c'est possible de faire des choses, quoi.
Eddy?
Oui, vous parlez très bien tous les deux, en fait, en filigrane de ce que vous dites. Il y a cette question, en fait, de ces élèves qui se retrouvent en situation de la plus grande vulnérabilité au moment de leur vie, avec le plus de pression sur les choix qu'ils vont faire. C'est vraiment le moment où ils ont le moins de repères et qu'on leur demande de se projeter le plus en avant. Est-ce que vous avez l'impression, dans vos échanges avec eux, qu'il y a une demande ou, au contraire, un rejet d'une certaine, au-delà du cognitif, quoi, une certaine demande ou un certain tabou au niveau de l'affectif?
Hakim?
Je vais même pousser peut-être ce que je dis.
Ça
de par votre propre conscience sociale, politique, etc., est-ce qu'il y a une limite qui est plus dure à poser? Parce que peut-être en rentrant chez vous le soir, vous êtes peut-être plus perturbé par l'injustice et peut-être le côté vain de certaines situations dans lesquelles vous vous posez. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans votre vécu, vous, de travailleur, quoi?
Oui, ça pèse. Oui. Moi, je pense que ça pèse.
Oui, ça pèse. Après, moi, j'ai aussi eu la chance de faire une formation sur le handicap à côté, qui m'a aussi recentré réellement en tant que prof. Et justement, de voir, enfin, de, de prendre en compte la difficulté sociale, de ne serait-ce que par les difficultés d'hébergement, etc. Et pas de, parce qu'une solution à ça, je l'ai pas en tant que prof. On milite à côté, on met à l'intérieur de l'éducation nationale. C'est pas. Par contre, moi, dans ma pédagogie, je peux le prendre en compte. Je peux prendre en compte ces difficultés-là pour essayer de l'atténuer et de permettre à l'élève de pouvoir quand même bosser et puis être en réussite. Donc ça, et que du coup, c'est forcément aussi assez épuisant et que affectivement, en effet, ça touche, ouais. C'est des situations qui sont globalement souvent très 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 drôles, quoi. Après, faut pas, enfin, c'est à la fois pas très très drôle, mais c'est le quotidien,
d'énormément d'établissements,
et de collèges aussi, et puis de la société dans laquelle on est, quoi. Voilà, la pauvreté, elle a quand même commencé à être plus que très présente, et je vais pas dire c'est comme ça pour dire on s'en moque. Mais ben on la prend en charge et puis on va pas pleurer non plus, quoi. On va se battre. Mais et c'est vraiment dans cette idée là quoi, on va se battre, on va y arriver, quoi. Donc par contre ça nécessite réellement des prises en compte pédagogiques. Ce qui veut dire que par exemple tu parles de pressions qui leur sont données, un élève qui va être affecté donc en milieu tertiaire, on va lui demander de venir en habit professionnel, en tenue professionnelle. Bon, il est adolescent, il fait une formation qu'il a pas forcément choisie, on lui demande de venir habillé en chemise, en costume, en tailleur pour les filles. Bon, ça les fait chier, quoi. Ça les fait chier. Parfois, ils ont même pas forcément les codes, ils maîtrisent pas forcément les codes vestimentaires appropriés. Donc, on les met en difficulté, on essaye de les faire rentrer, là, clairement, dans un moule, dès le départ. Et que là, il y a un vrai souci d'adaptation et que là, pédagogiquement, on est confronté en lycée professionnel à une difficulté qui se traduit par un élément très concret qui s'appelle le cahier d'activité, qui sont fournis par les éditeurs de manuels scolaires. Et les cahiers d'activité sont énormément utilisés en lycée professionnel. Donc un cahier d'activité, c'est un cahier, comme son nom l'indique, avec des activités, comme son nom l'indique. Avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les documents, les questions. Il y a le cahier d'activité pour le professeur. Hop, document 1, question 1, blablabla. On les laisse travailler pendant 5 minutes et on fait la correction. Et que les difficultés d'enseignement, la multiplication des heures supplémentaires, le déficit de formation, c'est-à-dire qu'en lycée professionnel, côté enseignant, on a aussi énormément de collègues qui sont contractuels, qui n'ont pas eu accès à la formation. Et qui forcément, ce qui est le cas aussi maintenant pour les jeunes collègues qui arrivent sans aucune formation, se raccrochent à quelque chose de pratique et de rassurant. Donc le cahier d'activité, ça semble être la solution, sauf que là, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout... qui peut pas s'adapter.
Et là on parle plus de pédagogie, effectivement.
Et là on parle plus de pédagogie. On est répétiteur, on peut être plein de choses, mais on est à mon sens plus réellement prof. Et là, ça crée aussi des difficultés avec les élèves. Là c'est clairement là où on a une difficulté majeure.
Oui, effectivement, c'est bien de rappeler qu'il y a énormément de profs contractuels qui arrivent dans des conditions eux-mêmes extrêmement précaires, sans aucune formation, qui sont en grande difficulté face à des classes pour lesquels ils n'ont pas du tout été préparés, qu'ils n'ont même pas choisi d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas forcément choisi de travailler en lycée pro, ils cherchent simplement un
métier
dans
l'éducation. J'ai un collègue qui était contractuel en SVT, donc en biologie, on va dire, pour faire rapide. Et il n'y avait plus de poste à la rentrée, donc on les a mis en biotechnologie, en lycée professionnel. Donc, en fait, ils font, pour faire simple, des cours de cuisine et d'hygiène alimentaire. Bon, le lien avec la biologie, il y est, mais enfin quand même un peu lointain. Et donc forcément, ça met les collègues dans des difficultés. Et donc, une difficulté aussi à l'adaptation pédagogique. Et ça, on le voit, y compris en enseignement général, ça veut dire être formé à la prise en charge de la difficulté scolaire. Donc, avoir un réel travail sur les problématiques de lecture. Et c'est là où le lycée professionnel, historiquement, on avait une formation, en tout cas en français, assez proche de l'école primaire. Donc avec vraiment un souci pédagogique, sans vouloir être désagréable avec les collègues qui travaillent en collège, hein, mais avec cette culture que les élèves qui arrivent en lycée professionnel sont en difficulté et que donc on doit s'adapter. Et que c'est pas à l'élève de s'adapter à nous. Après, voilà, faut pas être naïf. Dans les salles des profs, il y a régulièrement des conflits entre collègues, justement autour de cette question-là, entre des collègues genre un peu comme moi et comme nous, qui vont dire que c'est à nous de nous adapter à nos élèves pour leur permettre de réussir, et des collègues qui, pour qui c'est plus difficile, mais parce que c'est, parce qu'en effet, c'est pas si évident que ça, que ça nécessite de la formation, de l'échange, du temps de concertation.
Et effectivement, ce manque de le recours à des emplois précaires, c'est un vrai mépris à la fois pour les enseignants qui se retrouvent en difficulté. Parfois, c'est très très dur pour eux et pour leurs élèves qui se retrouvent face à des gens pas formés qui sont dépassés. Et ça, moi j'ai l'anecdote d'une copine qui s'est retrouvée enseignante en lycée pro sans aucune formation, qui a fait ce qu'elle a pu vaillamment. Et qui, à un moment où elle se retrouvait effectivement en difficulté avec sa classe, a essayé de se tourner vers ses collègues, en particulier vers la principale ou la, comment ça s'appelle, le directeur?
Le proviseur
du lycée. En lui disant, là, j'y arrive pas, j'ai l'impression qu'ils apprennent rien, j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien. Et la proviseur lui a répondu, écoute, ils sont quand même mieux là que dans la rue. Donc vraiment pour le coup, par rapport à tous les discours qu'on peut entendre, les discours officiels sur la valorisation, il y a un petit côté garderie parfois qui est la peur de la racaille pauvre qui va mettre le feu aux banlieues et qui sont mieux cadrés dans les lycées professionnels que dans les cités.
Ça, c'est un vrai sentiment. Excuse-moi.
C'est vrai que je rebondis justement là-dessus. Ils sont traités comme des... Même au sein de... Moi, j'ai pu expérimenter certains établissements, certains lycées professionnels, ultra sécuritaire, avec des caméras partout, dans la Canyon de Paris, plutôt dans l'Ouest parisien, je vais pas citer de nom particulier, où on a clairement pas envie de voir cette clientèle de lycée professionnel se balader en toute liberté dans le quartier, par exemple. C'est des classes dangereuses, on les traite comme des classes dangereuses, jusqu'au bout.
Ça, c'était bon en 2005, pendant le mouvement de grève. Nos lycées étaient quand même régulièrement fermés. Moi, à l'époque, j'étais à Bagneux. Et quand le lycée était fermé, parce qu'en partie de mes élèves le bloquaient, le commissariat appelait la chef d'établissement pour savoir si le lycée allait être fermé, parce qu'il fallait qu'ils adaptent leurs effectifs de flics en fonction, hein, si nos élèves sont dehors.
Dans le quartier, oui.
Ouais. Mais au niveau du mépris, c'est un vrai sentiment du côté des enseignants, mais ouais, de l'ensemble des personnes qui travaillent en lycée pro, hein, c'est ce manque de moyens pour bien faire les choses. Manque de moyens en termes de formation, il manque de moyens concrets, humains. C'est-à-dire que quand on a des élèves qui arrivent en seconde avec des grosses difficultés au niveau de la lecture, par exemple, on a besoin de modules de remédiation. Donc ça nécessite des heures. C'est pas des heures énormes, mais on a besoin de pouvoir les retravailler en petits groupes avec des outils appropriés pour leur permettre de résoudre des difficultés.
Alors est-ce que tu veux bien revenir sur la notion de module de remédiation.
Voilà. Bah, c'est des heures, donc en général une à deux heures maximum par semaine, où on va avoir les élèves sur une classe de 24, on va les avoir en petits groupes de 6 à 12 élèves. Pour justement travailler différemment,
c'est faire des ateliers,
une sorte de cours de soutien avec des ateliers d'écriture. Voilà, c'est après chacun les pratique comme il l'entend. Faut savoir que c'est pas du tout généralisé dans l'ensemble des lycées professionnels. Hein. Il faut l'intégrer dans le cadre d'un projet pour que ce soit budgétisé par le rectorat. Donc c'est quand même un peu une galère. En sachant que c'est particulièrement utile, c'est des dédoublements de classe, c'est des choses comme ça. Il faut se donner les moyens. Et sur la question des stages, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, les stages sont importants, etc. Mais vraiment sur la question de l'encadrement de ces stages-là, nous, on voit bien qu'on aurait besoin de davantage rencontrer les tuteurs, rencontrer les entreprises, expliquer quels sont les référentiels, donc c'est les programmes pour l'enseignement professionnel, et de donner un peu nos attentes vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des tuteurs, de pouvoir aussi se concerter après les stages pour faire une liste d'entreprises et de tuteurs qui se comportent bien et d'autres qui se comportent comme des enfoirés. C'est-à-dire que si on prend par exemple au centre commercial Rony 2, dans un certain nombre d'enseignes du prêt-à-porter, va y avoir 100% de stagiaires et le manager, ça va être un BTS en alternance. Donc et le manager titulaire, il va gérer plusieurs enseignes sur plusieurs centres commerciaux.
Ça fait rêver.
Donc ça fait rêver, et ça, que ce soit de la grande distribution du prêt-à-porter ou du prêt-à-porter de luxe, c'est la même réalité. Et donc forcément, nos élèves là ne profitent pas de leur stage, voient bien que finalement ils ont travaillé comme s'ils étaient travailleurs, sauf qu'ils sont pas payés. Donc des fois ils se payent par eux-mêmes. Donc dans ces cas-là, bah ils se font virer, virer du stage, virer du lycée, voilà. Alors que à la base c'est réellement de l'injustice et que nous on voit bien que ce serait pas toujours si compliqué que ça de nous donner les moyens d'améliorer cette situation.
Alors justement, puisqu'on est sur les stages, c'était un petit peu le point suivant sur lequel on voulait partir. Par rapport à ce lien de l'enseignement professionnel avec le monde de l'entreprise, là on est parti sur une critique. En même temps, il semble évident que pour former des gens au monde du travail, faire un lien avec le monde du travail semble légitime, semble pas absurde. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de nous dire comment ça se passe actuellement, qu'est-ce qu'il y a éventuellement de satisfaisant, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et comment ça pourrait se passer pour que ça soit des formations qui soient réellement professionnalisantes, puisque c'est pour ça qu'elles sont là, et pas effectivement une exploitation déguisée qui n'amène qu'au chômage, quoi. Avec le profit pour les entreprises et pas forcément pour les élèves.
Alors qu'il y a un lien avec le monde du travail, c'est une évidence, et que c'est le cœur du lycée professionnel. Après, on n'a malheureusement pas encore aboli le capitalisme, donc c'est une relation avec un monde du travail qui est violent. Ou en tout cas qui, à mon sens, les exploite, etc. Donc ça, c'est juste un élément quand même de fond, c'est-à-dire que par réflexe, quand on est enseignant en lycée pro, on peut pas dire on n'a pas à avoir de relation avec les entreprises. Ce serait un contresens. Après, que ces relations se fassent dans un cadre d'un système qui nous convient pas, c'est aussi une réalité. Alors, ce qui fonctionne bien, souvent des tuteurs qui prennent le temps de...
Donc les tuteurs, ce sont les profs?
Non, dans les entreprises, les salariés qui vont s'occuper, qui vont accompagner, qui vont
encadrer.
Responsables
de stage.
Voilà, responsables de stage. Donc souvent, on a quand même des tuteurs qui prennent le temps de continuer, d'approfondir la formation des élèves. Donc ça, c'est quand même... Voilà, faut être honnête que souvent, ça se passe quand même relativement bien. Là où ça se passe bien, c'est que c'est aussi un réseau qui se tisse pour les élèves, qui peut leur permettre de trouver du travail. Donc ça, c'est aussi une réalité. Là où des fois il y a un bémol, c'est qu'on a des entreprises qui peuvent recruter des élèves avant qu'ils valident leur bac. On voit bien un intérêt économique, hein. L'élève a besoin de bosser parce qu'il a besoin d'argent. Et pour l'entreprise, s'il l'embauche avant qu'il ait son bac, il l'embauche pas au même salaire. Donc, mais finalement, c'est un aspect négatif qui montre quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Après, là où ça fonctionne mal, c'est justement ce manque de relation entre l'institution scolaire et les entreprises. Alors, dans les lycées professionnels, on a quelque chose qui n'existe pas dans les autres écoles. C'est ce qu'on appelle un chef des travaux qui coordonne l'ensemble de l'enseignement professionnel. Et normalement, ce personnel-là est censé faire cette relation avec les entreprises. Faire la relation, ça veut dire aller les voir, organiser des réunions pour échanger et tisser, mettre en place des annuaires, par exemple, pour les recherches de stage, des conventions type, des partenariats, des choses comme ça, pour vraiment apprendre à compléter, que les deux formations se complètent et s'opposent pas. Je pense qu'il y a aussi un enjeu énorme, hein, c'est que ça permettrait au monde de l'entreprise d'avoir un peu plus de connaissances sur ce qu'est le système scolaire. Parce que souvent, nous, ce qu'on entend, c'est bah, heureusement qu'ils viennent chez nous, ils apprennent des choses, parce que visiblement, au lycée, ils n'apprennent pas grand-chose. Ce qui est faux. Sauf que, voilà, étant donné qu'on se parle pas, c'est pas simple. Le problème, c'est que ça doit passer par des temps de concertation, nous, de notre côté, des moments de réunion avec les entreprises qui accueillent les élèves. Voilà, ça, c'est sur la difficulté pédagogique. Après, il y a aussi une difficulté, c'est que si on prend par exemple une filière comme la comptabilité, tous les élèves d'un département partent sensiblement en même temps en stage. Donc sur les mêmes semaines, ils sont tous en stage. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de demandes à la même période. Donc il y a une solution, par exemple en commerce, hein, les élèves partent souvent en stage au moment des soldes. Donc voilà,
ça c'est pratique.
Ben oui, c'est pratique.
Ils apprennent à remettre les vêtements sur les cintres.
Voilà, c'est ça.
C'est super.
Ce qui est... On a vraiment besoin d'une formation professionnelle
c'est
pour
ça,
remettre
ça,
les
c'est
plans sur dessin. Ouais.
Mais par contre, voilà, quand on part en comptabilité, alors si, quand on part au mois de décembre et qu'il y a les inventaires dans les entreprises en comptabilité, là, il y a un sens, y compris un sens même voilà, de formation. Hein, qui est, mais quand c'est au mois de juin, c'est parfois plus compliqué. Et que là, on a des élèves qui se retrouvent à galérer. Galérer à trouver des stages, parce que trouver un stage, c'est aussi les déplacements.
C'est encore s'éloigner à nouveau.
C'est-à-dire qu'on est aussi quand même, enfin voilà, on a un tissu urbain qui est pas forcément simple.
Il y a beaucoup d'instabilité hein, dans tout ce que tu dis. Hein, pour des adolescents en pleine construction, c'est étonnant cette violence qu'ils subissent.
Cette question du rythme et de la stabilité et d'avoir quelque chose de régulier qui a priori, ouais.
Tu sais, moi, ça me fait penser à mes cousines qui étaient étudiantes en Tunisie il y a une dizaine d'années, donc vraiment l'époque Ben Ali, et où pour la moindre formation, le régime avait monté. Tu vois, t'avais un polycopier à aller choper à un coin de Tunis. 30 minutes après, t'avais un cours à un autre endroit, t'avais un autre truc. Ce qui fait que il y avait pas de mouvement étudiant, quoi. Il y avait vite fait l'UGTT qui faisait un truc, mais je veux dire les étudiants, ils arrivaient pour des diplômes qui valaient rien à côté de ce qu'on avait en France, et à un rythme, à une quantité de travail qui était complètement disproportionné. Il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de les empêcher de créer des liens entre eux. Est-ce que vous avez l'impression que il y a une attitude particulière à la mobilisation collective dans les périodes de grève dans les lycées professionnels?
Bah, je sais pas, vas-y Hakim peut-être sur...
J'ai pas senti un grand vent de révolte souffler dans les lycées professionnels où je suis passé.
En relation avec ce rapport très instable au lieu d'enseignement, au collectif, à la vie de classe, tu penses qu'il y a un rapport avec ça ou pas du tout?
Bah, moi je veux 40% d'absentéisme.
Ouais, voilà, ouais. Voilà.
Bah, oui. C'est-à-dire que, et ça, les chefs d'établissement communiquent pas entre eux leur taux d'absentéisme, parce que ça le fait pas. Sauf que nous, entre collègues, on se voit quand même et on se dit la vérité. Et voilà, moi dans mon établissement, en moyenne, on doit être entre 30 et 40% d'absentéisme. En bac pro, on est à au moins 50.
C'est une moyenne basse.
Ouais, c'est une moyenne basse. Hein. En lycée, en bac pro, enfin en terminale bac pro, on est au moins à 50%, voire 60. Et on pensait être dans une situation assez grave et un peu exceptionnelle. Et en fait, non. En discutant avec des collègues un peu partout là dans le département, c'est une réalité globale. Donc cette révolte-là, elle se traduit surtout par un découragement et par un abandon en cours de route.
Bien, je suis désolée, mais l'heure tourne. Donc est-ce qu'on reste sur cette note un peu décourageante, ou est-ce que vous avez un petit mot optimiste pour conclure?
Des revendications, des attentes.
Moi, le faire
solution miracle
que...
même.
Je pense réellement que le lycée professionnel, enfin moi j'y suis vraiment très très attaché. Je suis dépité de voir à quel point il est attaqué, qu'on l'empêche de bien fonctionner. C'est-à-dire que c'est vraiment une logique. Là, on a Sarkozy qui annonçait de multiplier énormément le nombre d'apprentis, donc ceux qui sont dépendent justement des structures qui dépendent des chambres des métiers et du commerce, donc ils sont plus dans l'éducation nationale. Le Hollande propose exactement la même chose, c'est d'augmenter l'alternance, donc passer au privé. Les CFA dépendent du privé, et que, comme pour tous les services publics...
Les CFA, c'est les centres de formation en alternance, voilà. Donc qui gèrent les apprentis.
Et l'apprentissage en lui-même, voilà, n'est pas forcément, enfin, peut avoir un intérêt, mais ça reste une structure privée. Et on a organisé, enfin on a les gouvernements successifs ont organisé l'échec du lycée professionnel en mettant en place des programmes pas toujours adaptés, des formats d'études qui compliquent les choses, en organisant la précarité massive des personnels, en détruisant la formation, et que tout ça, oui, ça donne forcément une note très très sombre. Après moi, la vraie note positive, c'est que les élèves que j'ai en face de moi, pour ceux en tout cas qui arrivent à se battre jusqu'au bout, quoi, à rester, je crois qu'ils sont pas malheureux au lycée pro, quoi. Ils ont clairement le sentiment qu'on s'occupe bien d'eux, qu'on est très à l'attention d'eux, et on les revoit l'année d'après.
Oui, il y a du suivi après.
Ouais, ils reviennent nous voir. Alors pas tous, hein, mais on a des élèves qui reviennent nous voir. C'est y compris parfois quand c'est pour juste nous dire, là en fait depuis l'année dernière je dors sous les ponts. Et en fait, ils viennent où? Ils viennent au lycée professionnel. Mmh. Parce que finalement, on sait quand même, on a réussi à mettre en place une vraie attention vis-à-vis d'eux, qui, justement, on voit pas les résultats immédiatement. Mais moi, je suis convaincu qu'en termes d'épanouissement personnel, de confiance en soi, de construction vis-à-vis des autres, il y a des choses qui se passent au lycée professionnel. Après, on est dans une ambiance violente institutionnellement et socialement, mais économiquement. Mais voilà, c'est pas que négatif,
c'est juste qu'il faut sauver ce qui reste à sauver parce que ça vaut la peine.
Et que on se confronte à la partie de la population scolaire la plus pauvre. Donc la pauvreté c'est pas drôle, mais si on est militant, c'est bien. Et les gamins ils sont bien là-bas.